féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous.
Parole de femme.
Le 31 juillet en Guinée, journée de la femme africaine, la justice a rendu son verdict dans le procès du massacre de septembre 2009. Claude Pivi, qui est en fuite, a été condamné à la prison à perpétuité. L'ancien chef de la junte d'Addis Camara a 20 ans comme Tiegboro Camara. D'autres accusés ont également écopé de peines de prison pour crimes contre l'humanité. Le 28 septembre 2009, des agents des forces de défense et de sécurité ont orchestré un massacre dans un stade de Conakry et ses abords, causant la mort d'au moins 156 personnes et des violences sexuelles infligées à plus d'une centaine de femmes. Pour Maître Alimatou Camara, qui a plaidé pour les victimes, c'est une victoire pour la lutte contre l'impunité.
Ce verdict a une dimension historique, même si elle ne remplit pas totalement nos attentes, mais elle a quand même une dimension historique parce qu'elle crée aujourd'hui un précédent en matière de justice dans notre pays, où nous n'avons jamais eu des personnes haut placées qui répondent devant la justice. Je pense que ce procès a permis aux victimes d'avoir une place de choix dans une société profondément marquée par des formes d'injustice les plus graves, des formes de violence d'État les plus graves. Donc, pour une fois dans l'histoire de notre pays, la parole est donnée aux victimes. Et il faut simplement espérer que ce processus va être implémenté dans notre conscience morale et aussi dans la pratique de notre justice.
Qu'est-ce que ce verdict représente pour les femmes victimes de violences sexuelles en septembre 2009? Car elles ont obtenu des mesures de réparation importantes, n'est-ce pas?
La question des violences sexuelles, on ne pouvait pas espérer mieux, en tout cas sur le plan des réparations. Et sur le plan de la reconnaissance que le viol est un crime et que c'est l'un des crimes les plus abominables. Et sur le plan du quantum de la réparation, les réparations allouées aux victimes de violences sexuelles sont plus élevées que toutes les autres formes de réparation, de coups et blessures, d'atteinte au droit à la vie, de disparition forcée. Donc cette décision est vraiment, du point de vue des crimes sexuels, une décision qui est historique aussi.
Pourquoi Claude Pivi a écopé d'une plus lourde peine que le capitaine d'Addis Camara?
Bon, le tribunal a décidé de condamner M. Pivi à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Alors que M. Moussa d'Addis Camara est condamné à 20 ans. Bon, je pense que ce qui a peut-être prévalu l'aggravation de la situation pénale de Claude Pivi est le fait qu'il ait réussi à s'évader. Cela peut certainement expliquer les raisons pour lesquelles il a écopé d'une peine plus forte.
Les accusés peuvent faire appel. Les avocats de Addis Camara ont annoncé que ce serait le cas.
Oui, en tout cas, les accusés ont le droit d'exercer des voies de recours et il va de soi que certainement ils vont exercer ce droit de recours. Et si jamais nous allons en appel, c'est la remise à plat de la décision et ce sera d'autres juges, les juges d'appel, qui rendront également une décision.
C'était Maître Alimatou Camara, une avocate des victimes du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. La journaliste camerounaise Suzanne Kalalobé est décédée dans la nuit du 31 juillet au 1er août des suites de maladie. Née le 16 janvier 1953 à Douala, elle avait vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 10 ans avant de poursuivre ses études en France. Elle était titulaire d'un doctorat en linguistique et d'un master en sciences politiques. Suzanne Kalalobé avait débuté le journalisme en 1992 à La Nouvelle Expression, se faisant très vite remarquer, puis elle avait ensuite travaillé pour Radio Equinox et la chaîne Equinox Télévision. L'éditorialiste avait finalement créé sa propre société de production. Le 23 février 2013, le président Paul Biya l'avait nommé membre du Conseil national de la communication. Suzanne Kalalobé était réputée pour ses prises de position tranchées, son franc-parler et sa personnalité indépendante. Notre consoeur Evelyne Mang-Akung, directrice des rédactions de la CRTV, la radio-télévision camerounaise, revient sur la mémoire de cet électron libre du journalisme qui avait aussi évolué dans le monde de la musique.
Ce que je retiens de la mémoire de Suzanne Kalalobé, c'est d'abord la grande professionnelle, une journaliste exemplaire. Elle aimait elle-même se définir comme un chien de garde de la société. Je retiens sa vivacité intellectuelle et puis son sens de la contradiction. Suzanne Kalalobé était une intellectuelle au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'elle excellait dans la remise en cause permanente. Elle exerçait son doute critique par excellence. Penser à Suzanne Kalalobé, je crois, c'est penser pour moi à ces facettes de sa personnalité et aussi à une autre facette que j'ai eu la chance de connaître, une femme au grand cœur.
Selon vous, qu'a-t-elle voulu véhiculer à travers son travail de journaliste ?
Suzanne Kalalobé véhiculait des valeurs fortes, l'éthique et la déontologie professionnelle. C'était une journaliste honnête qui évitait toutes sortes de compromissions. C'était une journaliste qui avait une haute idée de son métier. Mais c'était également une bourreau de travail qui avait une capacité extraordinaire d'être à la fois une belle plume pour la presse écrite, qui animait des émissions à la radio, à la télé, qui faisait des consultations. Bref, c'était un bourreau de travail. Et lorsqu'on la fréquentait, on voyait tout l'amour qu'elle avait pour ce métier.
Que devons-nous retenir de sa personnalité et de ses réalisations ?
Suzanne Kalalobé était un condensé de contraires. Elle était décrite comme la rebelle, la femme rebelle, la contestataire, celle qui remet tout à plat à chaque fois. Mais en même temps, c'était une femme d'une grande générosité, qui tendait la main aux plus jeunes, qui n'avait aucun complexe dû à l'âge, qui était étrangère à toutes sortes de sentiments toxiques ou nocifs, la jalousie, l'envie, etc. C'était également une personnalité très forte, qui n'aimait pas du tout se laisser imposer quoi que ce soit. Elle était un esprit libre. Elle était une femme libre et elle était amoureuse de la culture. Elle aimait particulièrement la culture Sawa, ce peuple de la côte du littoral camerounais à Douala. Elle était profondément attachée à ses racines traditionnelles et culturelles, un riche héritage du peuple Douala. Et elle était amoureuse de la chanson. Elle aimait beaucoup le style reggae, le style jazz, blues. Bref, elle aimait la bonne musique et bien sûr le makossa, qui est la musique typique du peuple Douala. Et elle avait une très belle voix.
Quels étaient ses points forts au plan journalistique ? Autrement dit, qu'a-t-elle légué à la profession ?
Je crois que son principal legs au journalisme camerounais, c'est la rigueur dans l'écriture, la beauté de l'expression, qu'elle soit écrite ou orale. Elle avait un vocabulaire extrêmement châtié. Elle avait cette facilité à manier la langue, à lui faire dire les émotions, les contorsions de son esprit. Elle savait porter les mots, en faire des flèches ou des baumes à pesant, cela dépendait de la situation. Au journalisme, elle laisse l'exigence éthique et déontologique. Un journaliste est une personne qui doit prendre toute la mesure de sa responsabilité sociale. Elle croyait que c'était précisément le rôle du journalisme de travailler à cela. Et puis, elle émerge au début des années 90 avec l'ouverture démocratique. Elle militait pour un journalisme assumé, fort comme étant un élément important de la démocratie. Le Cameroun perd en fait une grande dame de la presse, bien sûr, mais surtout une grande intellectuelle, au sens de ce qui pense la société, la critique. Elle est une grande promotrice de la culture, de la littérature camerounaise. Je vous rappelle que son père a été cofondateur de la revue Présence africaine, qui a permis de découvrir les plumes, les talents du monde noir, africain et malgache, qui a permis aux intellectuels africains, dès la fin des années 60, de partager leur vision du monde, qui ont permis en tout cas l'émancipation et l'indépendance intellectuelle du continent africain.
Et qu'a-t-elle légué à la femme africaine en particulier?
Pour moi, son principal legs à la femme africaine, à la femme camerounaise, c'est le droit à l'impertinence. Kala Lobé est venue décomplexer la femme africaine. Suzanne est venue, voilà, avec son style tout particulier, affranchir la femme de certains aspects rétrogrades de la culture, de certaines chaînes sociales qui obligent la femme. Elle est venue lui donner le goût de la liberté. Évidemment, chacun sur cette grande palette choisira jusqu'où aller. Mais déjà, de penser qu'on peut être femme, on peut être intellectuelle, on peut être libre. Par exemple, sur le mariage, elle était fondamentalement contre le mariage, estimant que épouser un homme, c'était devenir sa domestique supérieure et qu'elle n'avait aucune envie de devenir la domestique supérieure d'un homme. Oui, ce sont des idées révolutionnaires dans une Afrique encore traditionnaliste, mais ce qu'on retient surtout et que moi je vais garder, c'est ce droit à l'impertinence. Et cette invite à la femme africaine à se libérer de ses chaînes et à creuser son propre sillon. J'indique également qu'au moment de son décès, elle continuait de travailler et qu'elle est morte pratiquement, on va dire, la plume à la main.
C'était un hommage de la journaliste camerounaise Evelyne Mang Akung à notre consoeur Suzanne Kala Lobé qui nous a quittés le 1er août 2024.
Joseph Palanga, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Alors vous êtes chef d'entreprise, vous avez fondé une entreprise, les Boissons Makassi. Vous êtes dans le Colorado, vous produisez des boissons, donc oui, typiquement congolaises, donc qui sont importées, n'est-ce pas? Et ce sont des dames qui travaillent sur place, qui font elles-mêmes donc ces produits-là et qui font la transformation. Elles sont situées dans quelle province en particulier?
On a commencé à recruter des dames au niveau de la Kinshasa qui vont être des femmes leaders. On en a déjà 150 au niveau de Kinshasa depuis 2019 qu'on a travaillé avec eux. Mais la région dans laquelle nous allons travailler, c'est vers le Kasaï Centre, qu'on appelle dans les territoires de Luisa. Si vous vous rappelez, le Luisa, nous avons eu l'histoire Kamunasapu. C'était une rébellion qui a vraiment meurtri plusieurs personnes. Alors nous nous sommes décidés, c'est dans ce territoire-là, parce qu'elle nous offre aussi des sols vraiment adaptés pour nos produits. Et avec l'histoire qui s'est passée là-bas, nous pouvons soutenir beaucoup de femmes qui sont seules maintenant à cause de leurs maris qui ont joint la rébellion et n'ont plus de mari pour soutenir leur famille. Alors Makassi vient comme une plateforme pour travailler ensemble avec nous.
Vous voulez dire que ces produits, ces jus de fruits ne sont pas encore exportés?
Ils ne sont pas encore exportés vers les États-Unis. Quand j'ai commencé l'entreprise, je l'ai commencé ici. J'ai signé un contrat avec une usine du Vietnam. C'est là où j'ai développé le produit.
Donc vous voulez dire que ces produits sont déjà exportés au Vietnam?
Si, c'est ça en Vietnam, oui.
Et qu'est-ce que cela apporterait finalement à toutes ces femmes de pouvoir exporter leurs produits? Parce qu'ils sont déjà vendus au niveau local peut-être?
Oui, hein, oui, elles sont localement à Kinshasa, à Goma et à Lubumbashi.
Et elles sont organisées en coopérative?
En coopérative que nous appelons Makasi Women Business Club. C'est une coopérative que j'ai créée, j'ai fondée pour permettre à ces femmes de les joindre. Parce que ce qui manque plus à ces femmes, c'est la formation et l'opportunité des affaires. C'est pourquoi nous avons créé ces plateformes, pour qu'elles soient organisées.
Pourquoi avez-vous choisi ce domaine, justement, de promouvoir les activités des femmes?
Je suis très attaché à cela parce que dans les années 94, mon père, qui fut militaire, était obligé d'aller à la guerre pour notre pays. Alors ma mère était restée seule avec cet enfant, elle devait survivre. Alors l'unique manière, l'unique magie qu'elle a trouvée, c'était de faire jus maison. Le matin, elle les vendait au marché, au petit marché, et moi et mon frère, on allait l'aider. Et de cette manière, elle nous a vêtus, elle a payé la scolarité, elle a fait tout avec ça. C'est pourquoi j'ai dit, il y a plusieurs femmes comme ma mère, en Afrique et au Congo. Alors il faut créer une plateforme pour offrir ce que ma mère n'avait pas, l'éducation et un produit de renommée internationale. On appelle notre produit « Juice in a Mission », le jus en mission. Quelle mission? Mission de changer la vie de ces femmes, certaines d'entre elles qui sont financièrement dans la difficulté. Tout le monde peut faire des jus, mais tout le monde ne peut pas changer la vie des gens.
Là, on parle toujours de petites structures, en fin de compte. Est-ce qu'on peut voir plus grand aussi, voir une industrie prospérer dans ces lieux de la RDC qui sont très nombreux, où les gens produisent déjà au niveau artisanal, au niveau local? Est-ce qu'on peut espérer une industrie? En tout cas, est-ce que c'est dans vos objectifs à vous, en tant que chef d'entreprise?
Oui, oui, c'est l'un de mes objectifs et de mes partenaires, d'installer des usines au niveau de la RDC pour qu'on puisse produire dans des quantités industrielles. Parce que nous ne pouvons pas toujours laisser tout de manière artisanale. C'est pourquoi nous allons, avec Makasi Women Business Club, nous avons créé cette dynamique qui va accompagner les femmes et nous allons amener la technologie pour qu'on puisse industrialiser ce qu'elles produisent. Nous devons aider ces femmes à quitter ce niveau artisanal et les amener à l'industriel.
Et ces femmes, à un moment donné, elles ont forcément besoin de structures très particulières. Est-ce que vous avez la possibilité de leur apporter déjà ces structures-là pour qu'elles puissent améliorer leurs produits au niveau de la chaîne de transformation, par exemple?
Pas encore au niveau de la chaîne de transformation, mais dans la distribution, nous le faisons déjà. Parce que nous les accompagnons et on donne 50% de nos produits à crédit à ces femmes et 50% sont payés.
On parle très souvent de ce système-là, les coopératives de femmes qui travaillent ensemble et ça se fait de par le monde. Dans beaucoup de pays d'Afrique, elles exportent déjà leurs produits. Est-ce que c'est pas une nouvelle forme, une nouvelle manière aussi de voir finalement le business? Pourquoi toujours une entreprise très, on va dire, très classique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens finalement de voir ces manières effectivement d'exporter son travail, ses produits?
Je pense que dans ces siècles que nous vivons, l'entrepreneuriat classique a difficile à tenir debout. Il faut changer les manières de faire les choses. Et avec la potentialité que nous avons dans nos pays africains, nous pouvons créer une nouvelle dynamique qui ne suit pas exactement. On peut copier de ce qui a été fait dans le passé, dans le type classique du business, mais en modifiant cela et adapter cela dans nos pays de la manière dont ça va permettre à, non pas seulement les femmes et les hommes aussi, à émerger dans l'entrepreneuriat. Parce que l'unique manière de quitter la pauvreté, c'est d'entreprendre. Si on espère toujours avoir du travail dans une entreprise, combien de travail on offre en Afrique, et spécialement en RDC, il n'y a pas beaucoup de travail. Alors, entreprendre, c'est l'unique manière que moi, je pense, humblement, qui peut sortir nos pays de la pauvreté.
Vous êtes ici, donc vous, ce qui vous importe finalement, c'est de faire exporter des produits pour travailler ici. Mais finalement, on parle beaucoup d'exportation. Et toutes ces femmes qui travaillent là-bas, on sait aussi que la RDC importe énormément de produits. Donc, on voudrait peut-être savoir un jour que la RDC peut s'autosuffire, effectivement, et que tous ces produits qui sont vendus par ces femmes puissent être écoulés dans le pays même, qui est un vaste pays. Vous avez pensé à cela éventuellement aussi?
Oui, oui. Dans ce que nous voulons faire, d'abord, c'est nous avons besoin de capitaux. Et pour avoir des capitaux, nous devons le créer. Créer par des opportunités d'échange, de vente, d'exportation. Après, nous allons faire la diversification. Nous allons commencer à, si nous produisons par exemple 100% de nos produits, 40% sera vendu dans le marché local et le 60% sera exporté. Et on va commencer à changer la marge au fil des années. C'est ça l'objectif que nous voulons faire parce que nos populations ont besoin aussi de produits de qualité. Ce que nous vendons dans le marché actuellement en Afrique et au Congo, ce n'est pas de produits de qualité qui sont vendus.
Et ces femmes, est-ce qu'elles sont organisées? Est-ce que vous arrivez à ressortir de ces des femmes, des futures chefs d'entreprise qui pourraient vraiment être prometteuses et avoir beaucoup de responsabilités, parce que on imagine que vous avez besoin de contacts, de responsables là-bas, de managers en particulier.
Oui, oui. J'ai 24 femmes leaders dans le groupe des 150. J'ai détecté le talent en eux de gérer. On est tenté de se préparer pour leur donner des formations pour qu'elles deviennent les leaders de demain.
Fait important qu'il ne faut pas oublier, on parle de jus de fruits, donc forcément d'agriculture.
Oui.
Alors comment elles s'organisent au niveau des terrains? Est-ce que ce sont des terrains qui leur appartiennent?
Pour le moment, Makassi Beverage achète des terrains. On a acheté déjà 800 hectares dans le Kasaï Centre. On a commencé le projet qu'on appelle Une femme, un hectare. Ça veut dire chaque femme leader de ces 24 a un hectare. Et à partir d'elle, on va recruter d'autres femmes qui seront avec elle pour travailler cette terre-là.
Quel type de fruits vous avez en général?
Nous avons Sengou, nous avons le jus d'ananas, jus de maracuja, jus d'orange, le goyave. Ah, ce sont les produits que nous distribuons pour le moment. Puis on va progresser pour avoir tous les goûts qui sont dans le marché.
Et vous faites dans d'autres pays aussi également?
Oui, pour le moment on distribue seulement. On distribue au Botswana, en Zambie. Et nous étions en Ouganda, mais nous ne sommes plus là-bas parce que notre partenaire dans la distribution, Choprat, avait fermé. L'objectif, c'est de quitter les frontières et d'industrialiser. C'est-à-dire que nous ne voulons pas continuer à produire au Vietnam et exporter vers ces pays-là. Nous voulons doter de l'Afrique de cette industrie de boissons qui peut produire à la quantité industrielle
et qui pourra créer beaucoup d'emplois.
L'objectif, c'est d'amener plus d'investisseurs pour qu'ils puissent acheter les équipements nécessaires et installer l'usine appropriée dans les Kasaï Centre.
Alors Joseph Palanga, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec VOA Afrique.
Avec plaisir.
Le centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma est le seul centre spécialisé du Nord Kivu en République démocratique du Congo, malgré les besoins considérables en raison de la violence armée provoquant le déplacement de milliers de personnes. Il reçoit 80 patients par semaine en externe, dont une majorité de jeunes, et dispose de 50 places en internat. L'administrateur du centre, Anissem Rouani, dresse un plan de la demande en soins de santé mentale.
Ce sont souvent des gens qui viennent des camps de déplacés, d'autres qui viennent des environs des camps. Vous savez que la guerre n'affecte pas seulement les déplacés, mais ça affecte aussi les familles qui accueillent les déplacés, qui sont en train d'assister à des situations très alarmantes et développent des problèmes de santé mentale. Avec la guerre que nous vivons, mais nous fournissons assez d'efforts pour multiplier les séances de sensibilisation au niveau des radios. Nous travaillons avec les relais communautaires que nous formons au niveau des aires de santé proches de Goma, proches des camps de placés, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder aux soins. Et ceux qui pouvaient venir pour bénéficier des soins, bon, ils sont aussi limités par rapport aux moyens. Comme il n'y a pas un soutien au niveau des décideurs pour qu'on puisse prendre mieux en charge la santé mentale des populations, ceux qui viennent, ce sont ceux-là qui ont eu la chance d'être accompagnés. Mais les autres traînent là où ils sont, ils n'ont personne pour les soutenir et les amener à l'hôpital. Et c'est vraiment un problème dans la région. Et les malades sont marginalisés effectivement parce que la population n'a pas encore vraiment compris la santé mentale ou la maladie mentale.
Étant donné la situation, quels sont les besoins les plus pressants de votre centre de santé mentale?
C'est le soutien à la prise en charge de personnes malades mentales pour que ces malades puissent quand même accéder facilement au chez nous, une prise en charge qui est vraiment holistique. Il y a aussi la question de la sensibilisation. Ça demande vraiment que ça soit soutenu pour que ça se fasse d'une manière correcte. Mais aussi, il y a une difficulté par rapport à l'approvisionnement psychotrope dans nos régions. C'est devenu un problème. Ce sont des médicaments qui viennent de l'Europe, mais pour en avoir ici, ce n'est pas toujours facile. Et quand ça arrive, c'est à un prix élevé. Et il y a aussi un autre défi, c'est par rapport à la formation continue de notre personnel. Ce sont des formations qui demandent aussi de moyens. Nous avons beaucoup vraiment de besoins, mais le plus essentiel, je dirais que ce sont ces moyens là qui peuvent nous aider à prendre en charge le cas, le vulnérable, et d'assurer ou d'organiser des sensibilisations d'une manière très organisée pour que la population puisse avoir une information claire sur la maladie mentale, le renforcement des capacités de notre personnel, mais aussi cet appui à avoir des psychotropes pour qu'on prenne en charge facilement nos malades, quelle que soit leur précarité, parce que tout le monde a droit aux soins.
C'était Anissem Rouani, administrateur du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.